Bonsoir à tous. Les proches des victimes et les rescapés en avaient été privés l'an dernier en raison du coronavirus. Les commémorations des attentats du 13 novembre 2015 se sont déroulées ce matin. Une journée sous le signe de la sobriété. Reportage dans le journal. Faut-il engager une réforme des retraites avant la fin du quinquennat? Oui, selon le Sénat, qui s'est prononcé en faveur d'un report de l'âge légal. Un amendement qui n'a aucune chance d'aboutir, mais qui met la pression sur le gouvernement. Explication dans un instant. Et puis elles ont été impressionnantes sur le rectangle vert cet après-midi. Les rugby women françaises surclassent la Nouvelle-Zélande. Un match référence à un an seulement du prochain mondial.
France Inter.
6 ans, jour pour jour, après les attaques terroristes qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et à Paris. Plusieurs cérémonies se sont donc déroulées ce matin sur les lieux des attaques du 13 novembre 2015. Cérémonie d'hommage en présence notamment de Jean Castex, le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonsoir Mathilde Bouquerel.
Bonsoir.
Vous avez assisté donc ce matin à ces cérémonies. Pas de discours, pas de prise de parole, mais 6 ans après, l'émotion toujours présente.
Stéphane Albertini, Nick Alexander, Jean-Jacques Amiot.
Les noms des 90 victimes résonnent devant le Bataclan. C'est le dernier arrêt de l'hommage officiel qui a commencé quelques heures avant au Stade de France. Une centaine de personnes sont présentes parmi les officiels, parmi elles des proches de victimes comme Nadine Ribet-Rénard qui a perdu son fils Valentin au Bataclan.
C'est toujours un moment très éprouvant, mais aussi réconfortant. On a en plus l'actualité du procès depuis 2 mois avec nous. Ça a été vraiment un rouleau compresseur. La souffrance exprimée à la barre, les rescapés des terrasses, les blessés du Stade de France qu'on avait peut-être oublié, et puis les rescapés du Bataclan, et puis ensuite les familles de victimes.
Et après le départ des officiels, c'est au tour des anonymes de se recueillir devant le Bataclan. Lou est venue avec sa mère. En 2015, elle avait 7 ans, mais elle se souvient très bien du 13 novembre 2015.
J'étais en train de jouer au Barbie. J'habitais en face, en fait, du Cambodge. Et je m'en rappelle, j'avais entendu des bruits. Et des fois, on entendait des pétards. Donc, je me disais, et c'est sûrement des pétards. Ça m'a un peu perturbée, car on en a beaucoup parlé après, mais je ne comprenais pas tout. S'en prendre à des gens que l'on ne connaît pas, pour des raisons politiques, c'est horrible de faire ça, juste.
Et l'émotion va se poursuivre jusqu'à ce soir avec une minute de silence observée au Parc des Princes lors du match de l'équipe de France contre le Kazakhstan.
Mathilde Bouquerel en direct sur France Inter. C'est un amendement certes symbolique, mais très politique. Sans surprise, il sera sûrement rejeté par l'Assemblée nationale, mais quand même, le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a voté la nuit dernière en faveur d'un report progressif de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. Le sénateur juge qu'il y a urgence. Les précisions avec vous, Yannick Falt.
L'amendement porté par le sénateur LR René-Paul Savary prévoit 2 temps. 1. Une conférence de financement avec les partenaires sociaux pour formuler des propositions. Objectif, l'équilibre financier du régime des retraites en 2030. 2. En l'absence d'accord, dès 2023, le report progressif de l'âge légal à 64 ans pour les personnes nées après 1966 et la fin des régimes spéciaux avant 2032. Un scénario fiction, aucune chance d'aboutir, car c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot, le Palais Bourbon où les macronistes et leurs alliés sont majoritaires, mais de quoi mettre la pression sur le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'est dit pour une réforme des retraites, pour le report de l'âge légal et la fin des régimes spéciaux, mais pas tout de suite, comprenez dans un deuxième quinquennat. Emmanuel Macron en parle, nous, on le fait, assure René-Paul Savary. Décision virtuelle, mais thème bien réel de la campagne présidentielle.
France Inter, Yannick Falt sur France Inter, direction maintenant l'Écosse. Avec à Glasgow, les négociations qui s'éternisent à la COP26, un accord provisoire publié ce matin réclame la réduction du charbon et une accélération des objectifs climat. Mais les discussions bloquent en revanche sur l'enveloppe financière destinée à aider les pays les plus pauvres à réduire leurs émissions et à se préparer à affronter les conséquences du dérèglement climatique. Cette question est donc au cœur des ultimes tractations. Je veux que tout le monde le sache, nous n'avons rien à voir là-dedans. Déclaration ce matin de Vladimir Poutine, le président russe, assure que son pays n'a aucune responsabilité dans la crise migratoire en cours à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. La Russie est accusée par l'Occident d'avoir orchestré avec Minsk l'envoi de ses migrants à la frontière. Afin de briser la 4e vague épidémique qui est en train de déferler sur l'Allemagne, Angela Merkel appelle à un effort national. La chancelière sortante exhorte notamment les derniers réfractaires à se faire vacciner. Le coronavirus aux Pays-Bas avec à partir de ce soir et pendant au moins 3 semaines l'instauration d'un confinement partiel. Les magasins considérés comme non essentiels baisseront le rideau à 18h. Les bars, les restaurants et les supermarchés devront fermer à 20h. Assoiffer et affamer les populations ennemies pour les anéantir est une méthode de guerre aussi vieille que la guerre elle-même. Voici la première phrase d'une tribune écrite récemment par Patrice Franceschi, l'écrivain qui revient du Kurdistan syrien. Dans cette région, le conflit qui oppose l'armée turque aux forces kurdes semble gelé. Pourtant, une guerre silencieuse se développe dans l'indifférence générale, selon Patrice Franceschi, celle de l'approvisionnement en eau. Christian Chesneau, vous avez rencontré cet écrivain voyageur à son retour en France.
C'est une guerre à bas bruit, mais dévastatrice. Faute d'avoir pu écraser militairement les Kurdes, Ankara tente de mettre à genoux la population locale. Dans le nord-est de la Syrie, témoigne l'écrivain Patrice Franceschi, qui revient de cette région enclavée.
Il faut savoir que la Turquie, c'est le château d'eau, avec le Tigre et l'Euphrate, à peu près de toute cette partie du Moyen-Orient. Ils ont construit depuis des années beaucoup de barrages, ils contrôlent le débit de l'eau. Et depuis quelques mois, ils ont diminué d'environ 80% l'eau qui parvient normalement à la Syrie comme autrefois, et de 50% les stations de pompage d'eau douce pour les populations. Ils sont en train donc de faire à la fois d'assoiffer les gens et en même temps d'empêcher l'irrigation future pour les cultures du blé, puisque c'est le grenier à blé en Syrie.
Sur place, l'eau est rationnée, les gens creusent des puits dans l'espoir de faire remonter le précieux liquide à la surface. Poursuit Patrice Franceschi, cette guerre de l'eau menée par la Turquie exacerbe les tensions locales dans les villages, notamment chez les agriculteurs. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la Syrie subit en plus une grave sécheresse depuis plusieurs années.
Christian Chesneau. Le sport et le rugby d'abord. À un an de la Coupe du Monde, le 15 de France féminin a largement battu la Nouvelle-Zélande. Un succès 38-13 pour son deuxième test match de la tournée d'automne. À Pau, on retrouve Fanny Lechevestrier en direct. Bonsoir Fanny.
Bonsoir.
Les Françaises n'ont donc laissé aucune chance aux championnes du monde en titre cet après-midi.
Oui, des matchs comme cela, on en redemande vraiment, avec 12 000 spectateurs survoltés, une victoire et 6 essais surtout inscrits par l'équipe de France face aux championnes du monde. Alors oui, certains vous diront que les Black Ferns, les fougères noires, sont en difficulté ces dernières semaines, déjà battues le week-end dernier par l'Angleterre. Oui, oui, mais les Bleus ont une fois de plus proposé une partie vraiment de haut niveau en défense et elles ont donc régalé en attaque. En un an, les Bleus ont vraiment énormément progressé, alors que certaines joueuses ont tout mis leur carrière professionnelle entre parenthèses pour se consacrer uniquement cette année au rugby. De bon augure, hein, bien sûr, à un an de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande.
Fanny Lechevestrier, le sport ce soir, c'est aussi du football. L'équipe de France peut décrocher son billet pour la Coupe du Monde 2022. Faut gagner contre le Kazakhstan. Coup d'envoi au Parc des Princes à 20h45. C'est la fin de ce journal. La météo dans un instant.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et le temps, c'est avec Jean-Michel Golinski.
Un dimanche, maussade en perspective sur la plus grande partie du pays, avec de la neige pour les Pyrénées à partir de 1300 mètres et tout de même une évolution vers un temps plus sec en seconde partie de journée sur la pointe ouest, également vers la Belgique et le Luxembourg. Par contre, sur la Corse et la région PACA, là, il faudra oublier le soleil de la veille avec l'installation d'une ambiance ventée et d'un temps pluvieux orageux apportant beaucoup de pluie sur l'est de la Corse en soirée et la nuit suivante et de la neige en quantité à partir de 1500 mètres sur les Alpes frontalières. Le tout dans des températures partout loin des gelées nocturnes, des valeurs en légère baisse après-midi sur les régions méridionales, stationnaires plus au nord.
C'était Jean-Michel Golinski de Météo France.